Deux brutes qui ont assassiné leur conjointe à coups de couteau se sont retrouvés condamnés à au moins 25 ans de prison. Il s'agit de Maxime Labrec dans un cas et de l'autre cas dont on a beaucoup parlé parce que ça avait été la plus longue alerte Amber de l'histoire, là. Le cas d'Hugo Fredette qui a assassiné sa conjointe à leur domicile et parti avec un enfant. Et s'est arrêté dans une halte routière, a assassiné à cette halte routière Yvon Lacasse, un pauvre monsieur de 70 ans, dont il a fracassé le crâne, a volé la voiture de ce monsieur, est parti vers l'Abitibi, puis ensuite vers l'Ontario. Et ça a fini par une arrestation au cours de laquelle l'enfant qu'il avait kidnappé lui a servi de bouclier humain, ont raconté les policiers lors du procès. Hier, donc, Hugo Fredette a été reconnu coupable et on a quand même eu dans le public un petit doute que le jury se laisse convaincre par sa version qui était « j'ai eu un blackout total quand je suis arrivé puis qu'elle m'a menacé avec un couteau, blackout total ». Puis là, c'était pas planifié, c'était pas volontaire, etc. Il a quand même poignardé 17 fois avec deux couteaux. Dans l'autre cas, j'ai vu un homme qui tenait l'enfant par les mains. J'ai cru qu'il lui voulait du mal, puis je me suis battu avec. Ça donne que je volais son char après, mais c'est secondaire.
Tant qu'à la voiture, hein?
Bref, Hugo Fredette, là, il essayait d'obtenir, non pas un acquittement, mais une condamnation pour un homicide, pour deux homicides involontaires.
Exact.
Le jury l'a, de toute évidence, pas cru, au grand soulagement des deux familles des victimes qui ont suivi le procès, puis qui trouvaient hallucinant. Ses excuses, ses explications pour le drame. N'empêche que, durant le procès, à deux, trois reprises, on a écarté des éléments de preuve. Puis, à un moment donné, on s'est dit, Pascal, oui, mais le jury, lui, il sait pas ça. Tu sais, quand le jury s'est retiré, les journalistes ont commencé à nous raconter les éléments de preuve qui ont été écartés. Par exemple, le témoignage de l'enfant qui confirmait que c'est la conjointe d'Hugo Fredette tenait un couteau. Par exemple, le témoignage du dernier conjoint de Véronique Barbe qui disait qu'elle était terrorisée.
Par Hugo Fredette.
Et ces témoignages-là ont été écartés. Puis je me dis, pourquoi on ne dit pas toute la vérité au jury? Parce qu'à un moment donné, le public, c'est comme dans l'histoire de Guy Turcotte, à un moment donné, le public, il en sait plus que le jury.
Et il ne comprend pas la décision du jury.
C'est ça. Là, on va la comprendre dans ce cas-là. On avait donc décidé de contacter Vincent Momini, qui est un avocat criminaliste, et qui nous explique souvent comment ça marche la justice, parce que des fois, on ne comprend pas toujours. Bonjour, Maître Momini.
Oui, bon matin, vous allez bien?
Ça va bien, vous?
Pas très bien, merci.
Pourquoi est-ce qu'on donne, on dit pas tout à un jury? Pourquoi on écarte des morceaux de preuves?
Bon, il y a certaines choses qui sont pas soumises au jury à cause de leur effet préjudiciable, c'est-à-dire qu'on doit balancer avant d'admettre en preuve la force probante. Donc, qu'est-ce que ça prouve et selon quelle force ça le prouve? Est-ce que ça le prouve un peu, beaucoup, j'aurais le goût de vous dire passionnément?
Oui.
Et quel effet préjudiciable ça a contre l'accusé? Meilleur exemple pour ça, ce sont les antécédents judiciaires. Quand on fait un procès devant le jury et que le client a des antécédents de pareille nature de ce qu'il est accusé présentement, par exemple, quelqu'un qui aurait été trouvé coupable d'agression sexuelle et qui serait à nouveau accusé d'agression sexuelle, on fait une requête de type Corbette. Donc, on prive le jury de savoir qu'il a déjà des antécédents pour éviter que le jury tire l'inférence que, en anglais, on dirait « once a sinner, always a sinner ». Donc, il l'a déjà fait. Il l'a sûrement déjà fait. Il l'a sûrement fait cette fois-ci aussi. Donc, c'est pour éviter que le jury soit influencé d'une façon qui serait pas hors de tout doute ou qui serait pas surtout probant versus le mal que ça peut lui faire dans sa défense.
OK. Parce que me semble que quand c'est un récidiviste qui est jugé, le public le sait. Puis là, le public comprend pas là, que...
Le même réflexe que tout le monde a lorsqu'on pense à quelqu'un qui a été trouvé coupable dans le passé.
Ouais.
Les enquêteurs peuvent penser de la même façon aussi et les procureurs qui portent des accusations aussi. Mais cette personne-là, si elle l'a pas fait cette fois-ci, et qu'elle l'a fait dans le passé, mais que cette fois-ci, elle est accusée sous la base de sa réputation là, douteuse, entre guillemets, eh bien, c'est une bonne chose que les jurys aillent pas cette information-là parce qu'ils vont tirer l'inférence que, ben, il l'a sûrement fait encore. Alors, c'est pour ça qu'on prive le jury de certaines informations. Tout comme des informations, un autre exemple, ce n'est pas dans le procès d'Hugo Frenette, mais quelqu'un qui aurait fait sur son Facebook l'apologie des armes ou sans que ça soit des menaces, exemple, dans le cas de la Grande Mosquée de Québec, ouais, où là, l'accusé avait fait directement là, envers les musulmans des menaces, ça sera admissible. Parce que la force probante, c'est très gros, et l'effet préjudiciable, ben, rendu là, ça pense en faveur que ça soit admis, parce qu'il fait des menaces aux musulmans, et plus tard, ben, finalement, force est de constater qu'il va passer à l'acte. Mais quelqu'un qui aurait seulement fait l'apologie des armes, bien, on soumettra pas ça au jury, parce que le jury va se dire, bon, il fait l'apologie des armes, donc c'est quelqu'un de violent, donc il pourrait avoir commis le crime pour lequel il est accusé.
Ouais. Mais, donc, on cache des affaires au jury parce qu'on veut que le jury se prononce uniquement sur un événement et pas sur l'individu.
C'est ça. On veut faire le procès de l'acte pour lequel il est accusé, pas le procès de sa vie ou de son passé ou de certains agissements qu'il aurait commis qui seraient douteux. Je pense comme vous, c'est-à-dire en tant que citoyen, on a tendance à penser que ben on devrait tout savoir, ça nous donne un meilleur portrait de l'individu, et c'est vrai dans la vraie vie. Par contre, à la cour, il y a certains éléments qui finalement sont pas admissibles parce qu'on veut permettre une défense qui est pleine, juste et entière à l'accusé. Mais le réflexe de tous les gens, tous les citoyens normaux qui sont pas membres du jury, c'est de dire ben le jury aurait pu savoir ça. Mais force est de constater aussi que ça marche quand même, parce que Hugo Frenette, certains éléments ont été exclus, mais le jury, avec ce qui a été soumis à eux et qui a été admis en preuve, l'a quand même trouvé coupable. Donc, le processus marche quand même, entre guillemets.
Il y a quand même un témoignage dans le cas d'Hugo Frenette, celui du dernier conjoint de Véronique Barbe, là, qui a été écarté, si j'ai bien compris, parce que dans ce témoignage, ni la couronne, ni la défense n'y trouvaient son compte. Et que dans le fond, se faisant pas l'affaire ni de l'un ni de l'autre, dans le fond, ils ont décidé tous les deux de l'écarter.
Ça n'a pas été écarté par le juge. C'est eux-mêmes, les partis, qui ont décidé qu'ils ne soumettaient pas, finalement, ou qu'ils ne présentaient pas comme élément constitutif de l'infraction.
Parce que ça ne faisait pas leur affaire, mais la vérité, des fois, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Là, il me semble que la vérité doit avoir un droit devant un tribunal.
La vérité de la cour est plus sélective que la vérité de la vie de tous les jours, je vous dirais.
Mais c'est ça la question que je me pose. C'est, normalement, quand on a un jugement à poser sur un individu dans la vie de tous les jours, je parle pas d'un criminel dans ce cas-ci, mais on se base sur sa vie, ce qu'il a fait, comment il pense. On va aller plus loin. On dit toujours d'aller chercher plus loin qu'un simple événement. Et là, j'ai l'impression qu'en justice, c'est un peu le contraire. Puis même, c'est à se poser la question... Pourquoi, dans ce cas-ci, on fait affaire à un jury, si le jury est quand même formé autant, ben pas autant que les avocats, je parle pas de la formation éducative professionnelle, mais dans le sens où on leur a donné les barèmes, là.
C'est certain. En fait, ce qu'on veut éviter, c'est justement une espèce de... Vous avez raison, et même, je vous dirais que dans la vie, on peut juger même à l'apparence. La face de la personne nous revient pas, on l'aime pas au regard, elle nous attire pas personnellement. On veut éviter, finalement, une espèce de délit de faciès, là, de dire, non, lui, ce que j'ai appris sur lui, qui n'est pas nécessairement pertinent et légal comme preuve, eh bien, que ça serve pour le condamner. Et ça ne va pas pour tous les crimes. Là, on parle d'un crime devant jury, donc on fait très attention parce que les conséquences d'être trouvé coupable d'un crime devant jury, en l'occurrence un dossier de meurtre, c'est l'accusation la plus grave du code criminel. Donc, on fait attention qu'il n'y ait pas eu des erreurs, qu'il y ait eu des petites choses qui, pour deux choses, donc, qui vont avoir condamné quelqu'un qui aurait peut-être pas fait le crime, mais aussi pour priver, non pas volontairement, mais pour éviter qu'il y ait d'autres procédures. Quand on clôt un dossier, on veut pas que ça se ramasse en appel et que ça traîne et que les procédures perdurent. Donc, s'il y a de la preuve qui est pas nécessairement admissible, qui serait soumise au jury, ben là, on s'expose à ce qu'il y ait un appel, un nouveau procès, un procès qui est recommencé à zéro, donc des nouvelles ressources, l'accusé, finalement, qui peut être remis en liberté en attendant. Donc, il n'y a pas de closure. Et vous le disiez en début d'entrevue, la famille des victimes veulent une fin, veulent quelque chose pour commencer leur deuil et passer à autre chose. Donc, si les procédures durent des années qu'il y a appel, eh bien, finalement, on n'atteint pas l'objectif là, de clore les procédures et d'avoir un dénouement pour tout le monde, qu'il soit positif ou négatif pour l'accusé.
Ce que je comprends, c'est que le juge risque de se retrouver dans le procès de Frenette devant le même dilemme que le juge qui a jugé Alexandre Bissonnette.
Oui,
c'est-à-dire que, comme il y a deux meurtres, il pourrait y avoir 50 ans de prison ferme avant toute libération. Les peines pourraient être cumulatives. Est-ce que je me trompe?
Non, vous avez raison. Okay. C'est une nouvelle tendance. Je vous dirais que moi, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce que je fais. C'était pas d'actualité avant. sauf pour, vous vous souviendrez peut-être, il y a eu une tuerie de certains de policiers. Il y avait un homme qui avait tué des policiers au Nouveau-Brunswick.
Oui.
Alors, pour montrer l'opprobre de la société à ces crimes-là, on avait cumulé des peines de 25 ans. C'est assez récent. M. Huot l'avait fait dans le procès de M. Bissonnette, le tueur de la mosquée, parce que c'était un crime qui répugnait la société. C'est un crime haineux, basé sur la liberté de culte, la religion. Donc, on voulait envoyer un message, parce que c'est malheureusement d'actualité. On regarde nos voisins aux États-Unis, ça arrive souvent. Donc, ils ont dit, bon, on va donner un petit coup de barre plus solide. Donc, ça va être dissuasif pour les autres.
Okay.
Il n'y a pas de sous-meurtre, évidemment, et le cas de M. Fredette, ben, c'est tout à fait odieux aussi. Il a tué la mère de l'enfant devant l'enfant, ou du moins là, en sa présence là, quasi immédiate. Et ensuite, contrairement à ce qui est venu avancer comme défense, il a tué quelqu'un qui voulait aider l'enfant à se sortir de cette situation-là. Donc ça aussi, c'est crapuleux, c'est odieux.
C'est deux meurtres complètement séparés dans deux événements séparés, contrairement à Alexandre Bissonnette, où tout s'est passé dans une même séquence.
Oui, exactement. En fait, oui, vous avez raison. Ça s'est passé dans une séquence, M. Bissonnette. Je crois personnellement que le message du juge Huot dans M. Bissonnette, c'était de dire, écoutez, on touche pas à la liberté de culte, on touche pas aux crimes haineux.
Ouais.
C'est des choses qui sont sentencées plus sévèrement que d'autres meurtres. Dans le cas de M. Fredette, ça pourrait s'appliquer. C'est odieux. C'est une mère d'un enfant et ensuite un bon samaritain. Par contre, le problème avec cette nouvelle tendance, c'est où est-ce qu'on va arrêter et où on va commencer à faire des cumuls de sentences de 25 ans et plus, parce que c'est difficile de dire ouais, ça c'est moins pire comme meurtre. Ça c'est pire comme meurtre. Un meurtre, c'est un meurtre, quelqu'un est mort, c'est tout à fait affreux. Donc c'est là et la tendance se maintient, pour pas citer les termes de la campagne électorale. Parce que là, il y a un meurtre qui est crapuleux. Bon, on est tenté de cumuler. Là, c'est en ce moment le talk of the town. Est-ce que le juge va cumuler les peines? Et c'est ça qui va rendre l'exercice futur difficile. C'est quand est-ce qu'on va le faire? Parce que des familles de victimes de d'autres dossiers de meurtre à venir vont être tentées de dire, comment ça, nous, notre proche qui est décédé, a pas eu comme réparation, entre guillemets, des peines cumulées pour son assassin, alors que dans d'autres dossiers, ils l'ont eu. Donc, ça va être difficile de tracer une ligne, là, où est-ce qu'on cumule, où est-ce qu'on cumule pas.
Et ce juge-là risque d'avoir... En fait, c'est la couronne qui va faire la demande éventuellement, mais ce juge-là risque d'avoir une décision lourde de conséquences à prendre, parce que, ultimement, on pourrait se ramasser avec un Hugo Fredette qui a 50 ans de prison ferme et un Alexandre Bissonnette qui en a juste 40.
Ben, exactement. Et en ce moment, justement, le dossier de M. Bissonnette chemine vers la Cour suprême. Donc, la décision du juge Huot a été contestée. Elle n'a pas été renversée en ce moment. Il y a un cheminement à faire à Cour d'appel, etc. D'après moi, ça va aller à la Cour suprême après la Cour d'appel, là, indépendamment de la décision, parce que c'est l'intérêt national et tout le monde en parle. On veut savoir, désormais, est-ce qu'on fait ça? Aux États-Unis, c'est l'actualité là, depuis très longtemps. Aux États-Unis, des tueurs en série là, qui ont commis plusieurs meurtres vont écoper des peines là, absolument aberrantes, là, des 400 ans de prison, parce qu'on cumule les années de sentence pour le crime en question. Ça change rien à la donne comme telle, parce que 400 ans, on verra jamais le bout de notre libération. Ici, ça change quelque chose. M. Bissonnette, lui, le 40 ans versus le 25 ans change beaucoup. C'est un jeune.
Ouais.
Il sort 15 ans plus tard ou plus tôt. Monsieur Fredette, ce sera la même chose également. Mais là, il va avoir un intérêt à avoir une décision ferme là, du plus haut tribunal du pays, à savoir est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, et quand est-ce qu'on le fait.
Merci beaucoup, Maître Montminy.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Maître Vincent Montminy est avocat criminaliste. Il commentait le jugement, notamment Hugo Fredette, et surtout tout ce qui entoure ces procès, où il y a des choses qu'on ne dit pas au jury. On comprend un peu mieux pourquoi.
Un peu.
Mais ça a donné, tu vois, dans le passé, dans le cas de Guy Turcotte, alors que le public a su qu'il avait écrit une lettre d'une méchanceté et d'une froideur épouvantable à Isabelle Gascon après les meurtres, le public, lui, savait, puis avait jugé l'homme comme quelqu'un de méchant, de cruel.
Ça avait créé une grosse dissonance, oui.
Et le jury, lui, dans un premier temps, l'avait acquitté.
Oui.
Il est 7h55.
Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
De retour dans quelques instants.
FM